Bonjour à tous, bienvenue dans Kaléidoscope, la psychiatrie en couleur. Oui, c'est le thème de l'émission mensuelle qu'on enregistre comme chaque mois dans la bibliothèque de la Chênaie, où nous sommes confortablement installés, avec autour de moi, comme d'habitude, non pas comme d'habitude, tu étais là déjà
la fois dernière.
La fois dernière, hein, Tiffen.
Oui. Voilà,
bonjour, ça va?
Oui, bonjour, ça va.
Marie-Ange, à côté de vous, bonjour.
Bonjour.
Ouais, vous aussi, vous étiez là la fois dernière. Hein. François, bonjour.
Bonjour.
Alors, fidèle au poste, hein, François. Et fidèle au poste aussi, Gwenaëlle.
Oui. Bonjour, Gwenaëlle. Bonjour tout le monde.
Je vais tout de suite te passer la parole. Tu vas nous présenter le thème de l'émission. On va continuer, je crois, à parler des parcours.
Hein. Oui. Parcours de vie, parcours de soins. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est la 6e émission sur les 10 émissions de Kaléidoscope. Donc, l'émission qui est toujours diffusée depuis début janvier et jusqu'à fin juin sur Studio Zef. Et donc là, on est dans le 6e opus et on est encore dans la dernière émission de la série d'émissions qu'on a consacrée au parcours de vie, au parcours de soins des patients, puisqu'on a eu énormément de témoignages en fait et qu'on avait de quoi faire plusieurs émissions. Et donc là, l'émission d'aujourd'hui, on va se concentrer sur le vécu de la maladie, parce qu'on a plusieurs témoignages qui en parlent plutôt bien. Et donc, une première chose qu'on peut dire sur tous les... pour prévenir les auditeurs, sur ce qui se passe ici, au club de la Chênaie, c'est que déjà, les adhérents du club et toutes les personnes qui gravitent autour, les patients, sont souvent des personnes qui peuvent être parfois très malades. Et en tout cas, le but du club, c'est d'essayer d'apporter des vécus qui soient différents par rapport à la maladie et de trouver d'autres leviers à travers des ateliers, à travers tout un tas de choses et notamment à travers, on en a déjà parlé, à travers du vivre ensemble, etc. Voilà, donc c'est un premier point à prendre en compte. Alors après, quand on a dit ça, il faut aller un petit peu plus loin, mais on peut dire aux auditeurs que, en tout cas, plusieurs personnes qui sont à la clinique, et ça va être le cas de la personne qu'on va entendre dans le premier témoignage, peuvent avoir des vécus qui peuvent être différents, des rapports au monde qui peuvent être différents. Notamment, y a plusieurs personnes qui peuvent délirer, qui peuvent avoir des hallucinations, qui peuvent entendre des voix, tout ça c'est possible. Et il y a beaucoup de personnes qui, dans le giron du club de la Chênaie, vivent ces choses-là. Donc c'est ce public-là qu'on accueille et c'est avec... on fait plein de choses ensemble en faisant avec la maladie, du coup.
Oui, c'est vrai que dans les émissions précédentes, c'était très clairement expliqué par chacun et chacune d'entre vous. Là, il y a du dynamisme et nécessaire. Tu me dis si je me trompe. Chacun a témoigné sur l'utilité par rapport à son vécu, de soulager aussi les maux de l'âme, les maux de la maladie de chacun. Et c'est assez... ça marche, quoi. Hein,
ça fonctionne, ça fait des choses, ça a des effets.
Voilà. On écoute tout de suite le témoignage de Quentin.
Ouais. Hein. Ouais, ouais.
Salut, Quentin.
Ça va?
Bien, merci. Et toi, ça va?
Oui, ça va aller. Bien, tranquille ici.
Ça va, ça se passe bien, la Chênaie?
Ça fera bientôt 2 ans... 2 ans de j'ai pas vu passer. L'autre jour, j'ai 39 ans passé et l'autre jour, devant la glace, je me suis dit, putain, j'ai pris un gros coup de vieux, ça fait 39 ans que je me suis pas vu en face. Ça m'a fait drôle. 39 ans de perdu, claquement de doigts. Ah bon, dans l'ombre de ma mère, je cite.
Alors je sais, Quentin, que tu as un petit peu préparé notre entretien, parce que j'ai vu que tu avais des feuilles. De quoi as-tu envie de parler particulièrement?
C'est pas les feuilles, c'est pour en fait, c'est quand le débat à la française éclate. C'est pour des questions qui trottent dans ma tête ou quoi, comme je dis, pour éviter de rester dans le ton, dans la continuité du discours, du débat. Et construire, sorte de préparer la sortie.
Ah, tu prépares ta sortie.
Pas au premier degré, la sortie du jeu, partir, rentrer chez moi. C'est un petit peu difficile à expliquer, ça prendra des siècles.
Est-ce que tu as des projets de sortie peut-être?
Court, moyen ou long terme? Court de cette pièce, moyen de l'hôpital, tiers de la planète. Troisième de la planète. Prendre. C'est une petite lubie. La planète extrasolaire Nibiru. qui. J'ai raté le taxi, j'en ai un. C'est un regret épouvantable. Tant on peut faire des erreurs dans une vie, mais ça, c'est un regret et qui pèse son poids, quoi. Une fois, j'étais sur Paris et j'ai vu trois lumières descendre sur Terre. Et. J'aime bien la lumière dans le ciel, j'y attribue beaucoup de choses. Pour extraterrestre, machine, enfin tout, esprit, la totale, quoi, des choses bizarres qu'on peut trouver sur Terre. Puis bon, la première chose, les êtres humains, c'est vraiment on est la chose qui m'interroge le plus, c'est qu'on est quand même à base d'ADN, et l'ADN, c'est des atomes. Et comment on peut faire, comment quelque chose de vivant peut être fait, à part une machine autour d'électrons, quoi. Et puis au-delà de tout, de matière organique, les dents et le squelette, je dois dire que ça me dépasse. Mais j'apprécie.
Tu t'intéresses un peu à la science, on dirait. Et aux sujets un peu paranormaux?
Non, c'est une petite lubie J'étais chez mes parents là en fin janvier là, le 28. Et en fait, j'ai beaucoup tergiversé sur l'amour parce que ce que j'imaginais pour les femmes, et ça m'a azimuté la tête. Mais je suis encore sous le coup, ça me convient. Je continue. D'autres questions, Jean-Pierre? Voilà. Oui, donc j'admets les extraterrestres. Je suis parisien, enfin, Montreuil, à l'est. J'aime bien, j'avais une promenade fétiche sur les quais de Seine, côté bateau phare, là, la gauche, je crois. Et donc, c'est vers la Concorde que j'ai vu plus d'une fois des lumières dans le ciel. De tout de genre, il y a des lumières qui explosaient comme un feu d'artifice, mais bon, je sais pas que je reste sur ma faim, mais je suis jamais monté à bord. Ça commence à me tirailler un peu dans tous les sens, bien mauvais. Bon, de toute façon, je dis, au niveau de ma famille, ce week-end, ce début de semaine, là, j'étais le personnage central d'une problématique familiale croisée. Quand vous entendrez ceci, ce n'est pas un fou, ce n'est pas un type terriblement intelligent, c'est simplement qui est un fou d'amour paumé dans les priorités vis-à-vis de nos amis des femmes, c'est tout. Bon, votre question, c'est la première, je ne sais plus quelle était à l'origine, mais vous voyez ce que ça donne. C'est le problème du débat français, on commence à parler X et on finit par... qu'apporte, et on finit par donner son avis sur la moquette par terre, pour la caricature.
Merci Quentin.
Voilà, le témoignage de Quentin, est-ce que quelqu'un veut réagir? Quand on n'a pas l'habitude, c'est surprenant.
Oui. Effectivement, Quentin, c'est pas toujours facile de suivre tout ce qu'il dit. Au-delà de ces difficultés, enfin, ce qui nous intéresse, nous, c'est la façon dont on le rencontre, qu'on le côtoie tous les jours. Donc, on a vu, hein, dans ce témoignage-là, on peut repérer, bon, effectivement, le discours est difficile à suivre, il a des perceptions qui peuvent être différentes, de lumière, etc. Mais c'est vraiment, avant tout, la personne qui est intéressante. Et donc, plus largement, au-delà du témoignage de Quentin, ce qu'il faut voir, c'est que, oui, effectivement, les personnes qui sont en soins, qui ont besoin de soins psychiatriques, sont des personnes qui peuvent avoir des vécus qui sont parfois très différents. Mais en général, souvent, la caractéristique la plus répandue, c'est que c'est des personnes qui vivent des choses très, très difficiles et qui peuvent aller qui peuvent s'exprimer de différentes façons. J'ai parlé tout à l'heure de délire, d'hallucination, d'entendre des voix. Ça peut être aussi des sentiments de discontinuité d'existence. Enfin, il y a plusieurs, et puis des moments de très très grandes angoisses. Donc il y a différents vécus qui sont vraiment graves et douloureux pour les personnes. Voilà, il s'agit de prendre conscience de tout ça.
Oui, voilà. Enfin, j'ai toujours le souci donc d'être assez claire pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la santé mentale en général et ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté. Et c'est vrai que à propos des hallucinations, souvent des hallucinations auditives ou visuelles d'ailleurs, souvent j'ai l'impression que c'est la chose qu'on comprend le moins.
Oui.
Parce que je sais pas, alors parce que c'est pas visible, parce que ça se passe justement, tout est dans la tête.
Oui.
Et voilà. Et donc, effectivement, au regard des gens, vous savez bien que les gens ont toujours besoin d'explications rationnelles, donc c'est irrationnel. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que, est-ce que concrètement, par exemple, il y a, quelle est la thérapie, j'ai envie de dire, préconisé pour ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là pour soulager, justement, parce que effectivement ça peut être un cauchemar à vivre.
Ouais. Bah, pour parler de thérapie, il y a toujours plusieurs axes en psychiatrie. Le plus souvent, il y a souvent des molécules qui peuvent aider, mais après c'est pas le tout. Il faut vraiment déjà proposer un cadre qui soit respectueux de la personne en tant que telle. Donc oui, pour être soignant, un des aspects à prendre en compte, c'est que historiquement, le diagnostic en psychiatrie, il a longtemps, et sans doute qu'il y a des restes de ça, c'est qu'il y a des traces du fait qu'il a été essentialiste. C'est-à-dire que le diagnostic, c'est extrêmement différent de dire à quelqu'un « Vous êtes schizophrène », cette phrase-là, elle est terrible à entendre, à recevoir, comparativement à d'autres diagnostics comme avoir un diabète de type 1 ou 2, alors qu'on est aussi dans des maladies chroniques, mais la médecine générale s'intéresse à des pathologies qu'on situe en général à la périphérie de l'être en tant qu'être humain, alors qu'en psychiatrie c'est très délicat parce qu'on est au plus proche. Et donc l'utilisation du diagnostic est très, très différente, donc la façon de le recevoir, de l'entendre, de l'utiliser, etc. peut être très, très délicate dans plein de cas de figure différents. En tout cas, ce qui va être soignant aussi, c'est d'accueillir la personne dans toute sa globalité, de pouvoir l'accueillir et de ne pas se limiter à réduire les personnes, quelles qu'elles soient et pour quelque raison que ce soit, dans des petites cases, que ce soit pour des raisons médicales, diagnostiques, ou que ce soit pour des raisons administratives, de politique publique, etc. Donc il faut vraiment dépasser ça, dans tous les cas, et c'est ça que le club permet aussi, le club thérapeutique permet vraiment d'élargir cette perspective-là, parce qu'on n'a aucun compte à rendre sur ces catégories-là. On est à côté, et le club apporte une vraie richesse de ce point de vue-là.
Et comme tu disais, c'est aussi pour prendre la personne dans son ensemble, ses capacités, ouais, de tout son vécu. C'est, ouais, pas uniquement le diagnostic, en fait, si j'ai bien compris, ça enferme. C'est un risque.
C'est, voilà, pas en soi. En soi, c'est ce qu'on en fait. Mmh. Et ce qu'on en fait, ça dépend de tous les lieux, les moments et les personnes. Donc c'est, en soi, on ne peut pas le savoir. En tout cas, historiquement, ça a été beaucoup le cas. Et puis c'est... Ça reste un risque, mais ce n'est pas, on ne peut pas dire de façon générale. Oui. Et par contre, le club, ou en tout cas une posture de soignant critique ou conscient de ces difficultés-là, ouvre sur une autre perspective. C'est que certains, dans le milieu de la nature, on parle de biodiversité, mais on peut aussi percevoir les choses en termes de diversité de l'expression du psychisme. C'est que chacun peut avoir un rapport au monde qui est différent, chacun a sa subjectivité, et parfois la subjectivité peut induire que le rapport au monde soit différent. Là, on a le témoignage de Quentin qui s'exprime à sa façon. Je peux parler d'un autre patient qui est hospitalisé dans une autre clinique. Alors on va essayer de faire d'autres émissions plus tard avec les cliniques de Sommerie et de la Borde. Et il y a un patient qui est hospitalisé ailleurs, qui lui a un rapport au monde différent, où tous les matins, quand il se réveille, il a besoin, pour exister lui dans un espace, de fixer le coin du mur au plafond qui est en face de son lit, pour être certain que ce point existe, et puis après, il descend chacune des arêtes de son mur pour avoir une dimension, un trait dans la longueur, puis après une largeur, puis après la troisième dimension. Et que quand il a fait tout ce travail-là de reconstruction de l'espace, qu'il a l'impression de ne pas être dilué dans du néant, qui va exister dans un espace qui lui est propre, et il n'y a qu'à partir de tout ce travail-là, on pourrait dire d'intensité d'être, ou en tout cas il met sa personne dans ce travail-là, qui le conforte suffisamment et qui lui donne l'assurance de pouvoir sortir de sa chambre, aller ailleurs, quitte à y revenir au moment si jamais ça se passe mal. En psychiatrie, on est amené à rencontrer des personnes qui peuvent avoir des vécus tout à fait différents du rapport au monde, et ça s'exprime de façon tout à fait diverse.
Donc c'est un espèce de rituel, ce dont tu parlais, un rituel pour se rassurer.
En tout cas, il le met en mots en termes de besoin. Parce que sinon, il a une angoisse extrêmement forte qu'il habite, que son être se dissolve dans du néant, sans comprendre tout à fait ce qui lui arrive. Et c'est le seul moyen que lui a trouvé pour surmonter ça. Donc chacun a des moyens qui peuvent être différents. Freud disait que le délire était un moyen un moyen thérapeutique pour reconstruire un monde qui permette à la personne de se sentir plus vivante, par exemple.
C'est quasi philosophique, hein, tout ça.
Oui, en tout cas, la maladie mentale, oui, renvoie à certaines questions qui sont assez mystérieuses. Et donc, c'est bien d'avoir des espaces pour en parler et puis dédramatiser les choses aussi.
François.
Oui, je voulais réagir par rapport au témoignage de Quentin, pardon, merci. Parce qu'il y a quelques similitudes par rapport à mes symptômes. Ces symptômes sont à peu près similaires à les miens, dans le sens où il a, on va dire, des pensées répétitives, quelques idées fixes, aussi un peu comme les miennes. Et puis, un peu comme on m'avait dit au lycée, que comme si j'avais plusieurs personnes dans ma tête qui parlaient, comme s'il y avait un dialogue entre plusieurs personnes. J'ai l'impression, quand la façon de s'exprime Quentin, dans la vie de tous les jours à la clinique, ça fait un peu comme moi, où il y aurait des personnes qui parlent et qui discutent entre eux, qui réfléchissent par rapport à des idées, des réflexions. Et surtout par rapport à ça. Et là, dans mon cas, par rapport à mes symptômes, ces idées fixes et ces pensées répétitives, des fois, ça m'empêche un peu de me concentrer et de rester attentif. Et donc là, j'ai la formation à lire que j'ai commencé le 4 février et là qui se termine cette semaine le 12 avril et qui me permet de mieux me concentrer et d'être plus attentif par rapport à du français, des maths et de la logique. Et voilà, tout ça, en tout cas cette formation que là je termine bientôt m'aide beaucoup dans ce sens, à me concentrer.
Donc la formation à lire, juste pour expliquer, François.
C'est pour une remise à niveau de français, maths, logique, pour après, par exemple, ça nous aide pour les CV, les lettres de motivation, à nous remettre après sur le marché du travail pour trouver un futur emploi.
Et c'est ouvert à tous.
Marie-Ange,
vous voulez réagir ?
Oui, j'étais touchée par le témoignage de Quentin parce que c'est moi, je n'ai pas parlé de pathologie parce que je ne la connais pas, parce qu'elle ne m'intéresse pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que son discours est plein de surprises, au point que parfois on se sent perdu, la plupart du temps d'ailleurs. Mais en même temps, on entend que c'est un être intelligent et qu'il s'intéresse à énormément de choses et surtout qu'il va vers les autres. Il a un grand besoin de relations avec autrui. Et je pense que aussi c'est la conscience écologique de la Chesnaye. Il a trouvé sa place dans... Il ne l'a pas trouvé d'ailleurs, il l'a créé. Sa place à la Chesnaye en ramassant les mégots, par exemple, ou en ayant des idées sur la manière dont les rejets à la clinique, c'est énorme parce qu'on est très nombreux, comment ça devrait être géré, comment ça devrait être réutilisé. Et il y a tout ça qui est Quentin, et
Et même si on passe dans une conversation avec lui pendant 10 minutes et qu'on on est les yeux grands ouverts en permanence parce qu'on se demande où ça va.
Ça arrive.
Mais il suggère des idées et surtout des sentiments. Et donc c'est quelqu'un qui a un réel aura de sympathie, qui génère un réel aura de sympathie. Et voilà. Et il est évident quand on l'entend qu'il y a une pathologie derrière, mais notre Quentin, c'est pas ça.
Non, c'est, merci Marie-Ange, parce que c'est vrai que quand on le connaît pas et qu'on entend juste son discours, on peut effectivement être perdu. C'est bien de... Vous avez raison. Derrière, entre les lignes, on entend. Bien
oui.
sûr, on entend tout ce que vous venez de dire. Tiffaine.
Ben, je pense que Marie-Ange a bien parlé du sujet de au sujet de Quentin, mais c'est vrai que c'est un être très touchant et il est bien plus que sa maladie. On voit, enfin moi personnellement, la première fois que j'ai rencontré, je rencontrais Quentin et pas sa maladie, et c'est quelqu'un de très touchant et de très accueillant. Et de très engagé écologiquement au sein de la clinique, comme l'a dit Marie.
Et justement, cet engagement, comme vous dites, c'est spontané. C'était spontané. C'est lui qui l'a décidé, quoi.
Ouais, mmh. Oui, tout à fait.
Ouais. On peut peut-être faire une petite pause musicale.
Oui,
hein,
très bien.
Ce serait pas mal.
Ouais, ouais.
Alors, Gwenvel, on vient d'écouter Bratch.
Oui.
Avec quel titre?
Alors, le titre Chubby. Et Bratch, c'est un groupe qui est venu deux fois au club de la Chaîne, une fois en 2000 et une fois en 2007. On a eu la chance de les avoir deux fois.
Oui, quelle chance.
Voilà.
Donc, on va pas traîner. On va écouter tout de suite le deuxième témoignage. Alors, c'est qui?
Témoignage de Catherine.
Catherine, c'est parti.
Ouais.
Salut Catherine. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous dire que depuis l'âge de 7 ans, je souffre de troubles obsessionnels compulsifs, autrement dit des TOC. Et ça me fait très très souffrir. J'effectue des rituels sous la douche, des rituels de douche, des rituels de vérification de porte, vérification du gaz, vérification de la portière de la voiture si elle est bien fermée. Et je voulais dire que c'est une souffrance au quotidien et c'est très très dur pour moi. Et les médecins ne sont pas capables de me soigner. Pratiquement, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des pédopsychiatres, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psychanalystes qui n'ont servi à rien du tout. Donc moi, je vois pas à quoi ça sert de faire des études 7 ans après le bac si on n'a pas le moyen de soigner les gens.
Oui, tu parles de rituel de douche. Tu peux... Ça t'ennuie pas d'expliquer un petit peu ce que tu ressens à ce moment-là?
Les rituels de douche, ce sont les rituels que j'effectue sous la douche. C'est-à-dire, j'ai un chiffre fétiche qui est le 2 et je me lave deux fois, deux à trois fois. Et je prends des douches, beaucoup de douches, ce qui me vaut ce qui me cause de l'eczéma aux mains. Enfin, là, j'en ai pas. Mais qui me font beaucoup souffrir. Et donc j'ai utilisé tous les médicaments de la pharmacopée, ça n'a pas suffi. J'ai utilisé tout, Zoloft, antidépresseurs, neuroleptiques, y a pas d'amélioration quoi. Tous ceux qui souffrent de TOC comprendront ma souffrance parce que c'est une souffrance vraiment atroce. Et depuis l'âge de 7 ans, j'ai ça, donc ça fait 36 ans, je vais sur mes 37 cette année, sur mes 44 cette année, donc ça fera 37 ans que je souffre de TOC et je n'en peux plus, voilà. Alors j'ai arrêté mes études en seconde, comme je le disais, et j'aurais bien aimé les poursuivre, mais ma maladie me prenait tellement de temps que j'ai pas pu faire des études comme je voulais.
Tu faisais des études de quoi?
Des études classiques, seconde classique, normale, seconde. J'étais obligée de redoubler ma seconde. J'étais obligée de redoubler ma sixième parce que je suis entrée chez les religieuses. Mais même, je me lave les mains pour un rien. Dès que je touche quelque chose, je me lave les mains. J'utilise des anti-désinfectants. Une fois, je me suis lavée à l'eau de Javel, enfin les jambes à l'eau de Javel. Donc c'est pour dire que vraiment, et j'ai attrapé des microbes à cause de ça, c'est le cas de le dire. Parce qu'on ne se lave pas les jambes avec de la Javel, hein, c'est trop agressif et puis c'est dangereux. Mais qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais dire quelque chose d'autre, mais je ne me rappelle plus. Ah oui, les études, donc je voulais les poursuivre. Donc j'ai fait une seconde classique, normale. Deux secondes j'ai fait, j'étais obligée d'arrêter. Les rituels me prenaient trop de temps. J'aimerais bien qu'on trouve quelque chose pour les TOC parce que c'est vraiment insupportable. Quoi. Le matin, dès que je prends ma douche, je me dis « Ah, je suis angoissée comme pas possible et je sais que si j'effectue pas mes rituels, je suis encore plus angoissée. »
C'est peut-être une question un peu très indiscrète. Est-ce que tu as envie d'expliquer ce que c'est que les attaques de panique?
Les attaques de panique, c'est des attaques qui nous prennent comme ça. On panique pour un rien, pour une chose. On ne sait même pas pourquoi on panique. Des fois, je sais pas toujours pourquoi je panique. Et je sais que je fais le va-et-vient. J'ai des palpitations cardiaques. J'ai le cœur qui bat vite. Je suis affolée. Je suis pas bien, quoi. Je suis très mal.
Et tu prends un cachet pour t'apaiser ou ça finit par s'estomper?
Quelquefois, ça peut durer une heure, comme ça peut durer deux heures, comme ça peut durer toute une journée ou même des journées entières. Et c'est très, très difficile. Et les études, je voulais être historienne. Moi. Je voulais être historienne, passer un doctorat d'allemand et faire une thèse en allemand. J'ai pas pu parce que ma maladie me l'a empêché.
Kaléidoscope.
La psychiatrie en couleur.
Voilà, c'était le témoignage de Catherine, encore une grande souffrance là. Hein. Donc, les TOC, on peut rappeler ce que c'est que les TOC ?
Trouble obsessionnel compulsif, en tout cas, c'est la définition admise, mais elle en parle extrêmement bien. Ouais. Et puis, elle décrit à la fois sa souffrance et puis son envie de partager, enfin d'échanger sur cet état en invitant les autres à reconnaître ce qu'elle vit. Et voilà, comme elle dit, sept ans d'études du côté des soignants, ça a servi à quoi pour elle? Évidemment, elle est très directe là-dessus et elle a tout à fait raison. C'est qu'on est obligé d'être tout à fait modeste en tant que soignant par rapport au fait qu'on n'arrive pas à soigner tout le monde. Mais à la fois, pourtant, en tant que soignant, on a quand même une responsabilité. C'est que même quand on a des difficultés à apporter un mieux-être significatif pour une personne, en tout cas sur le plan médical, il faut être conscient, et on doit, je pense, être conscient, qu'il y a d'autres leviers que les leviers médicaux, et que c'est là où, en tout cas, intervient le club thérapeutique, c'est que sur d'autres registres, il y a des choses à faire pour améliorer les conditions d'existence d'une personne, et qu'elle ait une vie relationnelle, même si elle est hospitalisée, etc., et qu'elle puisse s'ouvrir et qu'il y ait d'autres personnes autour d'elle qui puissent l'ouvrir à d'autres vécus que le seul vécu de la maladie. Et c'est, voilà, c'est là qu'intervient tout ce que peut apporter le club avec les ateliers de plein de façons différentes.
Parce que dans le, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans son témoignage, on sent de la colère, quoi. On sent de la colère, on sent une grande souffrance quand même. Et donc l'ouverture, je pense que ça dépend des personnes, mais ça peut être plus ou moins long.
Oui, et puis des fois, c'est complètement une gageure parce que la précarité de l'existence, la souffrance de l'existence, elle est énorme. Mais pour autant, faut apporter des choses.
Vous aviez peut-être un petit mot à dire par rapport au témoignage de Catherine, François ?
Oui, par rapport au trouble obsessionnel compulsif que Catherine a. J'en ai beaucoup moins qu'avant, mais j'en ai eu aussi un peu plus jeune. Par exemple, par rapport aux douches, de prendre des longues douches, alors ça m'a... Et même des fois, ça m'arrive encore, des fois, quand j'arrive pas à dormir la nuit, de prendre beaucoup de bains, des longs bains. Ce qui peut me jouer des tours au niveau du sommeil par rapport aux insomnies. Et voilà, et aussi d'autres troubles obsessionnels compulsifs, comme par rapport aux placards, les armoires, toujours bien fermer les placards, toujours bien fermer les portes. Voilà, des choses comme ça.
Marie-Ange.
Oui, je connais pas Allez-y. Très bien Catherine. On se croise comme ça, on se dit bonjour, mais pas plus. Mais moi, je suis sensible justement à cette colère qu'on a quand on est vraiment pas bien. On a la colère qui enfle comme ça, et on trouve pas toujours. Enfin, quelquefois, on prend des exutoires qui sont pas exactement la source du mal, mais comment dire ? C'est cette conscience qu'on souffre, hein, le fait d'être... on voudrait mettre, en fait... elle met un nom sur sa souffrance, mais même si on n'en met pas, on voudrait trouver le responsable, un responsable, n'importe qui, pour lui dire « Mais j'en peux plus, là, aide-moi. » Et elle a choisi le médecin. Et quelquefois d'autres personnes, mais c'est faut comprendre que la souffrance, bah oui, ça peut générer de la colère, parce que c'est très très inacceptable, en fait.
Et des fois, il y a une certaine forme d'injustice aussi. On se demande pourquoi nous, pourquoi personne me comprend aussi, parce que des fois la seule réaction qu'on a face à notre souffrance, c'est la colère. Et le fait que les personnes ne comprennent pas non plus pourquoi on fait ça, pourquoi on se met en colère, ça nous met encore plus en colère. Enfin, il y a une certaine forme d'injustice, en fait.
On va tout de suite embrayer sur le témoignage d'Elisa, qui est le plus long témoignage de cette émission. Ouais. Voilà, alors je vous laisse écouter.
Bonjour Elisa.
Bonjour.
Alors, par ce beau soleil hivernal, nous allons avoir un petit échange toutes les deux. À toi la parole pour raconter ce que tu sens de ton parcours de vie, ton parcours de soins.
Bah, je m'appelle Elisa, j'ai 25 ans. Et la première fois que j'ai été hospitalisée en clinique psy, j'avais 19 ans. C'était à cause d'une bouffée délirante aiguë suite à la prise de toxique. En fait, je fumais trop de cannabis et ça m'a rendu un peu... ça m'a rendu un peu dingue, disons. Et du coup, j'ai fait ma première hospitalisation pendant 3 semaines à Saint-Cyr, au CPU de Saint-Cyr. C'était horrible. C'était vraiment pas du tout une bonne structure. J'étais coincée dans un étage, j'avais même pas le droit de sortir. J'avais même pas le droit de changer d'étage. Je devais fumer dans un fumoir, j'avais pas le droit d'aller dans le jardin et tout. Il y avait presque pas d'activité. Les infirmières, elles n'avaient rien à faire de nous. Genre, elles étaient tout le temps dans leur bureau. Et quand on tapait à la porte pour demander un truc, on avait trop l'air de les gêner, comme si elles avaient des choses bien plus intéressantes à faire que de s'occuper de nous, ce qui était un peu leur travail. Du coup, c'était pas du tout l'endroit où je me suis sentie bien. Et après, j'avais arrêté de fumer pendant longtemps. Ah, et aussi, quand j'étais là-bas, ils m'ont donné un faux diagnostic parce que ils m'ont diagnostiqué en tant que bipolaire, ce qui n'était pas vrai parce qu'ils ont confondu ma bouffée délirante aiguë avec une phase maniaque. Parce que j'avais arrêté de fumer depuis un certain temps quand j'avais fait ma bouffée délirante aiguë. Et du coup, j'avais pas de THC dans le sang. Du coup, ils ont pas compris que c'était à cause de la fumette et pensaient que c'était parce que j'étais bipolaire. Et c'est à partir de ce moment-là, juste avant cette opération, que j'ai aussi commencer à me poser des questions sur ma santé mentale et mon état en général. Et je me suis un peu retournée vers un diagnostic que j'avais eu quand j'étais petite. En fait, on avait dit à ma mère que j'étais autiste. Le RAZED, en fait, à l'époque, c'était une espèce d'association qui s'occupait des enfants, où il y avait un psychologue, un éducateur, il y avait un instituteur spécialisé qui avait dit que je présentais des signes d'autisme. Mais ma mère m'a juste fait aller voir un psy et qui a dit que j'étais très intelligente et que j'étais pas du tout autiste parce qu'en fait j'avais aucun problème à parler aux adultes, c'était à parler aux enfants de mon âge qui était difficile. En fait, l'autisme, c'est un spectre, mais on parle souvent de syndrome de Kraner et de syndrome d'Asperger. Et je me suis reconnue dans le syndrome d'Asperger, j'ai reconnu certaines choses que je faisais et certains aspects de ma personnalité et certaines difficultés dont je souffrais aussi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire bah, peut-être que j'ai Asperger et peut-être qu'il faudrait que ça soit diagnostiqué. Et au début, personne ne me croyait. Même ma mère, elle me disait « Mais pourquoi tu veux être autiste ?» Mais c'est pas que je voulais être autiste, c'est que je cherchais des réponses. J'avais un questionnement et je voulais des réponses et je voulais savoir ce qui se passait. Alors après ça, donc... Et je me suis remise à fumer, malheureusement. Et j'ai refait une bouffée délirante aiguë. Et cette fois, j'ai été à l'hôpital à Blois. Ça s'est mieux passé que la première fois. À Blois, c'est pas le meilleur endroit du monde, mais c'est pas non plus la mort. Les gens étaient plus sympas. Et puis, au moins, je pouvais sortir dehors à cette époque-là. Et j'y suis aussi restée 3 semaines. Et après ça, je suis allée voir une psychologue spécialisée dans l'autisme qui m'a fait un pré-diagnostic. Du coup, j'ai eu ce pré-diagnostic de cette psychologue qui pouvait pas me faire un diagnostic complet parce qu'elle était psychologue et pas psychiatre. Et selon elle, j'avais un syndrome d'Asperger. Donc j'avais ce pré-diagnostic en poche qui devait être validé par un psychiatre. Et à côté de ça, j'avais aussi commencé à faire des démarches au CRA pour avoir ce diagnostic. Et donc pendant un temps, ça allait et j'ai fait ma 3e bouffée délirante aiguë. Et je me suis retrouvée à la chaînée. À la chaîne, ça s'est très bien passé, même si j'avais une médecin qui n'a jamais voulu valider mon pré-diagnostic. Et à côté de ça, parce qu'elle ne voyait pas d'autisme en moi, elle ne me considérait pas que ce soit possible, en fait. Et donc voilà, j'étais à la chaîne, et les démarches avec le CRA ont mis du temps à aboutir, mais ont commencé à aboutir, et ils n'ont pas dit que j'avais un syndrome d'Asperger, j'avais un trouble de l'humeur et un trouble de l'attention. J'en ai parlé à la psychologue que je voyais qui m'a dit qu'au CRA, ils avaient beaucoup de mal à diagnostiquer les Asperger, en fait, parce que c'est beaucoup plus subtil que certaines autres formes d'autisme. Et que justement, le diagnostic qu'ils m'avaient fait était assez révélateur, parce que quand on est Asperger, on a souvent des troubles de l'attention et aussi des troubles de l'humeur. J'ai changé de médecin à la Chenet. Et je lui en ai reparlé de ce diagnostic, de cette histoire d'Asperger qui me tenait beaucoup à cœur et dans lequel je me reconnaissais et qui me faisait plus de bien qu'un diagnostic de bipolarité où je ne me voyais pas du tout. Et ce docteur, en 2017, m'a eu un rendez-vous avec une collègue à elle, qui est une psychiatre spécialiste de l'autisme sur Paris. Et elle m'a fait mon diagnostic final de syndrome d'Asperger. Et ça a été extrêmement libérateur. Parce que du coup, grâce à ça, j'ai pu demander les aides dont j'avais besoin, notamment pour reprendre mes études. J'ai pu prendre contact avec la mission handicap de l'université, leur exposer mon handicap et avoir des aménagements en fonction qui m'ont aidé à avoir une très très bonne première année et à me sentir beaucoup mieux à la fac et à finalement reprendre mes études.
Donc là, tu as repris les études depuis combien de temps, Elisa ?
J'ai repris les études en 2018, l'année dernière, et je suis dans ma deuxième année.
Avec un aménagement spécial au niveau des horaires et du temps de cours ou bien...
En fait, mes aménagements, c'est que j'ai une justification de mes absences sur l'année, parce que je peux avoir des absences dues à des crises d'angoisse. Et j'ai aussi une salle séparée pour les examens, et j'ai un preneur de notes.
Toi, Elisa, comment ça se passe en dehors des cours, à la maison, dans ton quotidien, ta famille ?
Ça se passe bien. J'avais certains problèmes avec mon père quand j'étais petite, parce qu'il avait du mal à accepter le fait qu'il ait un enfant qui n'était pas comme les autres. Et ça lui arrivait de le... du coup, il faisait ce qu'il pouvait. Et ce qu'il pouvait, c'était un peu me crier dessus, me taper dessus, pour me remettre droite en quelque sorte. Ce qui n'était pas possible, parce que j'étais une enfant autiste, quoi. Et du coup, c'est pas comme ça que... Mais maintenant, ça va mieux avec mon père. Et avec ma mère, elle a toujours été assez protectrice avec moi, mais c'est normal. C'est quand on a un enfant qui a des difficultés, on est plus protecteur avec. Et du coup... Comme beaucoup d'enfants dans mon cas, on disait toujours la même chose à ma mère. On disait que si j'étais comme ça, c'était sa faute. C'était parce qu'elle était trop proche de moi. Ce qui n'était pas le cas. Si j'étais comme ça, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai un handicap. Et sinon, en ce moment, ça se passe bien. Ma mère aussi, au début, elle n'acceptait pas mon diagnostic. Mais maintenant, elle est vraiment derrière moi. Et elle dit que c'est ça, quoi. J'ai fini par la convaincre. Et elle s'est renseignée sur le syndrome. Elle a lu des livres. J'en ai lu aussi. Elle a parlé à des médecins. Et on s'est rendu compte que c'était ça.
En fait, vous avez cheminé ensemble dans la connaissance, dans la mieux connaissance de cette pathologie. Et ça resserre les liens familiaux, sans doute. Et la complicité aussi.
Oui, ça nous a rapprochés, c'est sûr.
En dehors de ces cours qui sont déjà importants à la fac, quels sont tes projets à court terme, dans n'importe quel domaine ?
Ça peut paraître un peu bizarre, mais j'aime beaucoup chanter et j'aimerais bien faire le casting de The Voice cette année. Tenter de me lancer un peu dans la musique. Je ne sais pas où ça va me mener, mais j'aimerais bien essayer.
Et puis, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin ? On sent que tu as une personnalité forte, une singularité. Tu ne passes pas inaperçue. Tu es toute pleine de joie et de couleurs. Et donc, voilà, qu'est-ce qui te motive au jour le jour ?
Mes amis, les amis que je me suis fait, qui m'acceptent comme je suis et avec qui je peux bien rigoler. La musique aussi, ça me motive. Écouter de la musique, chanter. Ce qui me motive aussi, c'est de découvrir ce que la journée aura à m'offrir, quoi. Mais j'avoue que je suis pas toujours très motivée. J'ai des moments où j'ai un peu des baisses de morale et c'est pas toujours facile. Mais il y a des jours où c'est plus facile que d'autres et je pense que ce qui me motive beaucoup, c'est les gens autour de moi, en fait. Parce que même si j'ai un problème avec les relations sociales dues à mon syndrome d'Asperger, j'aime beaucoup les gens et j'aime beaucoup passer du temps avec eux et j'aime beaucoup ce que m'apportent les gens et ce que je peux leur apporter aussi.
J'en suis totalement convaincue. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur, par exemple, ce que tu vis en ce moment à la chaînée, parce que tu n'y es pas très souvent maintenant que tu es bien occupée.
La chaînée, c'est vraiment un lieu qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, qui continuera à m'aider encore longtemps. Et je pense que c'est pas forcément un lieu qui est pour tout le monde, mais ce genre de clinique institutionnelle, c'est vraiment un lieu qui peut permettre d'avancer et de guérir beaucoup plus qu'un HP.
Pendant ton séjour à la chaînée, est-ce qu'il y a des activités, des temps de loisirs, des services que tu as pu rendre et qui t'ont aidé?
Ah bah, l'atelier musique, c'est mon atelier préféré et c'est un atelier qui m'a beaucoup aidée, qui m'a permis de me produire un peu à la chaînée pendant les nouvel an, les trucs comme ça. Un autre atelier qui m'a aidée, c'est l'atelier dessin et le train vert où j'ai fait le service pendant assez longtemps et où j'ai aussi fait la cuisine, qui m'a aussi beaucoup aidée. Par exemple, il y avait une jeune femme qui travaillait au train vert et on était assez complices et j'écris des chansons et je lui chantais régulièrement les chansons que j'écrivais et ça lui faisait plaisir parce qu'elle aimait bien ça et moi ça me faisait plaisir parce que c'est vachement important de partager ce qu'on écrit. Et d'ailleurs elle me manque aussi parce que à l'époque où je lui chantais mes chansons, je pouvais écrire 5 chansons par semaine et en ce moment j'ai du mal à écrire des chansons parce que je sais pas à qui les chanter, ce qui est dommage.
Voilà, c'était le témoignage d'Elisa. François, vous vouliez réagir?
Oui, alors par rapport au témoignage d'Elisa, ça, il me touche beaucoup parce que en fait, mon meilleur ami est autiste, il a le syndrome d'Asperger comme Elisa. Et c'est vrai qu'elle parlait au niveau de la communication, ceux qui sont touchés du syndrome d'Asperger ont du mal à communiquer avec les autres, pour un gros problème relationnel. Et c'est vrai que moi, il y a 8 ans environ, quand j'ai commencé à me lier d'amitié avec lui, j'ai eu du mal à communiquer avec lui. J'essayais de trouver les codes pour apprendre à mieux communiquer avec lui. Et puis je voyais que depuis son temps de jeune âge, il avait du mal à communiquer à l'école avec les autres. Et puis il me parlait de son gros problème relationnel qu'il a quand même réussi à dépasser, oui. Puis même là, il a des contrats de travail assez courts, mais quand même, il arrive à trouver du travail avec son symptôme d'Asperger. Et donc voilà, c'est vrai. Et puis ce qui est par contre un atout quand on a le syndrome d'Asperger, c'est qu'on peut être très fort en calcul mental. Et donc mon meilleur ami, il est très fort en calcul mental, bien plus fort que moi. Et c'est vrai que ça peut jouer aussi dans. C'est pour ça qu'il a passé un bac pro comptable. Et assistant gestion comptable, il est très fort dans la comptabilité, donc ça peut aider dans un métier quand on a le syndrome d'Asperger pour tout ce qui touche aux chiffres. Voilà, merci.
Merci François. Tiffaine ?
Oui, ce qui est intéressant avec Elisa, c'est aussi son combat par rapport à son diagnostic. Il faut le rappeler que, bien sûr, un diagnostic ne fait pas de nous qui nous sommes, on est bien plus que ça, mais c'est très important, enfin, en tout cas pour moi. Par exemple, pour moi, c'est très important d'avoir un diagnostic. Ça nous aide à nous comprendre. On arrive à comprendre pourquoi on agit comme ça, pourquoi on est comme ça, qui on est. Et même si ça ne fait pas tout, bah ça, c'est une partie de nous aussi.
Ça donne quelques réponses à ses angoisses, à ses inquiétudes.
Oui, et puis à ces questions. C'est aussi une partie, la partie philosophique qu'on parlait avant. C'est toutes ces questions sur l'existence qui est aussi... dont je pense tout le monde a ces questions-là un peu existentielles. Et quand on souffre de maladies psychiques, c'est vrai qu'elles sont elles sont très importantes aussi.
Mais c'est vrai que sur la question du diagnostic, ce qui est frappant dans le témoignage d'Elisa, c'est on dirait que c'est très très important pour elle, que ça prend beaucoup de place.
Bah, c'est une démarche qui est légitime.
Voilà. Oui, mais complètement.
Ça touche vraiment... on est proche de l'intime de l'être humain, donc du coup, quand la personne s'en empare, elle est légitime à avoir envie de s'en servir comme un moyen, un outil de mieux se connaître et de répondre à certaines de ses questions.
C'est vrai que chez le commun des mortels, parfois, quand on est malade, on parle d'errance médicale et ça angoisse vraiment... c'est très angoissant d'être dans l'errance médicale, alors j'imagine...
Elle le dit elle-même au début de son témoignage, c'est qu'il y a aussi le risque d'un mauvais diagnostic.
Oui.
Et puis, on parlait avant dans l'émission du risque aussi d'avoir un diagnostic qui puisse être trop lourd, une étiquette trop lourde à porter, et qui ne soit pas ni explicité, ni présenté, ni dédramatisé, ni suffisamment expliqué pour que la personne soit libre par rapport à ça.
Encore une réaction, je vous en prie, Tiffany.
C'est vrai que le rapport au diagnostic est très important parce que moi, j'ai eu plusieurs diagnostics qui étaient mauvais. Mais même si ce n'étaient pas les bons, j'étais dans un meilleur état. Je savais qu'il y avait une explication. Il y avait une explication de pourquoi j'étais comme ça. Et j'étais, j'étais plus folle quand je n'en avais pas, en fait. C'était, c'était vraiment, mes angoisses c'était des multipliés. Oui, ah, c'est oui. Ça, des multipliés. Et c'est parce qu'il y a cette question-là qui reste en suspens. On ne sait pas pourquoi, on voit des choses, on entend des choses, on peut avoir des tocs, et on ne sait pas pourquoi on les a, et on a besoin de réponses. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux mauvais diagnostics. Ça peut être très lourd.
Alors aussi, il faut ouvrir des choses. Enfin, il faut ouvrir aussi les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le diagnostic qui peut donner des éclairages sur notre fonctionnement actuel. On a aussi des moments où on fonctionne de telle façon et on a une plasticité psychique. Aussi, on fonctionne différemment au cours de la vie et on a des efforts à faire pour élargir notre représentation des choses parce que, par exemple, souvent quand on est soignant, un des biais qu'on peut avoir, c'est de ramener trop de choses à la maladie de la personne et d'oublier le fait que la personne, elle a aussi des marges de manœuvre par rapport à ce qu'il en est et que certaines manifestations d'humeur, de fatigue ou autres peuvent être tout simplement liées à des choses qui ne sont pas du tout pathologiques, loin s'en faut, mais il faut vraiment... à la fois côté des patients et du côté des soignants, il y a beaucoup de choses à faire encore, je pense, pour qu'on ait une conception plus juste de l'être humain en tant que tel, parce qu'on voit cette erreur dans beaucoup d'équipes de travail, de soins, d'attribuer trop de choses à la maladie, à un diagnostic, ah oui, c'est parce que, voilà. Et avec des fonctionnements qui sont rigides et qui, en fait, peuvent être assez loin de la réalité et puis qui sont aussi une manière pour les soignants de s'économiser un certain nombre de réflexions, de s'économiser le fait de rencontrer la personne en tant que telle, de comprendre son histoire, etc. Et aussi de voir toute la part d'humanité commune qu'on partage ensemble et aussi il y a des choses où on en tant que soignant, le soignant n'a pas toujours d'objet à traiter. c'est pas parce que il faut vraiment ouvrir cette pensée là sur le fait que il y a des mouvements psychiques tout à fait normaux qui font partie de la vie même, qui n'ont pas à être étiquetés du côté de la pathologie. Et que tout, enfin, c'est vivant, on est vivant, et donc tout ça bouge. Et que même si il y a des périodes qui peuvent être plus difficiles, c'est peut-être pas forcément un diagnostic qui va y répondre, mais l'idée de fonctionnement, de processus, ah oui, ça tend vers. Mais la représentation à avoir, elle est complexe. C'est comme un fleuve qui se détourne un petit peu et puis qui reviendra dans son lit un peu plus tard. On n'est pas dans le fait de penser le normal et le pathologique comme deux blocs monolithiques, on est dans l'erreur la plus totale. C'est complexe, c'est vivant et il y a des courants et des mouvements dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir l'idée de diagnostic. Voilà, il y a des agencements psychiques à un moment donné, des fonctionnements, des processus psychiques qui interviennent. Et puis parfois on va être plus fréquemment de ce côté-là et puis ça va bouger, ça se libère, on travaille dans autre chose. Et tout ça, ça prend plusieurs formes.
J'imagine que ça ne doit pas être toujours facile de trouver la bonne distance. C'est comme trouver le mot juste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'acceptation de l'errance.
Oui.
C'est pas forcément facile. J'imagine le côté des soignants où on bosse sur des choses, où vous bossez sur des choses assez concrètes, justement. Et puis là, c'est un peu plus flou, on va dire.
Il faut accepter le fait qu'on est à redécouvrir ce sur quoi on travaille, et notre métier, la façon de se positionner, etc.
Mais là, tu l'as très bien expliqué. Il me reste vraiment encore une fois à vous remercier d'être là pour la 6e de Kaléidoscope. On se retrouve le mois prochain.
Oui.
Puis je rappelle que cette émission est podcastable, comme d'habitude, sur studiozef.fr. Merci à tous, à très bientôt à la radio.
Yes, c'est cool, ouais.
este barrio nos encontramos y empezamos a tocar y cantar. En este barrio nos encontramos, 10 años después te saludamos.
Cumbia, cumbia, cumbia de nuestro barrio, barrio colorado de la gota de oro. Cumbia, cumbia, cumbia de nuestro barrio, barrio colorado de la gota de oro.
No, 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 no,